Liban. Anatomie d'un pays déchiré.
La tragédie frappe encore le Liban. Petit pays au cœur d'un Proche-Orient qui s'embrase, enjeu des puissances régionales, fragilisé par ses divisions internes, le destin de la région s'y joue.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de relations internationales, Hassan Salamé.
Épisode 5, 2005. L'assassinat de Rafik Hariri et la main de la Syrie.
Rafik Hariri était porteur d'un idéal de démocratie pour le Liban, d'un idéal de souveraineté, d'indépendance et de liberté pour ce pays auquel tout l'attachait avec passion, et j'en porte le témoignage. C'est une grande perte pour le Liban et pour le monde d'aujourd'hui. Jacques Chirac, le 16 avril 2005, à Beyrouth. Hassan Salamé, on poursuit notre conversation. L'assassinat de Rafik Hariri, ancien Premier ministre libanais, deux jours plus tôt, le 14 avril 2005. C'est un événement majeur, selon vous?
C'est un événement, oui, très important. Très important de l'histoire du pays. Il est vrai, je dois dire, que les chefs des différentes communautés ont tous été pratiquement assassinés l'un après l'autre. Pierre Gemayel, que vous citiez tout à l'heure, a été assassiné. Kamal Jumblat, le père de Walid et le chef des Druzes, a été assassiné en 1977. Moussa Sadr a disparu en Libye en 1978, le chef des chéhides de l'époque. Nasrallah vient d'être tué, qui est le chef du Hezbollah. Je veux dire, quand vous devenez chef d'une des communautés libanaises, votre assurance vie devient très très chère, si chère que vous ne pouvez pas la payer.
Ouais.
Et c'est le cas de Hariri, c'est-à-dire que tout le monde, tous les chefs de communauté, les chefs qui montrent une certaine indépendance d'action, sont menacés par les autres, mais aussi par des puissances environnantes qui pensent que cette émergence d'un Liban souverain et indépendant n'est pas dans leur intérêt. Il en va de Hariri comme de Kamal Jumblat, il en va de Kamal Jumblat comme de Pierre Gemayel, il en va de Pierre Gemayel comme de Hassan Nasrallah, c'est-à-dire ce sont des chefs de communauté qui ont pris trop de poids aux yeux de certains des voisins du pays et qui, c'est pas les mêmes, mais qui ont fini par les assassiner. Ce que Hariri tentait de faire, c'était deux choses. C'est d'abord reprendre les compétences que les Syriens lui avaient arrachées dans plusieurs matières, depuis l'accord faustien de 1990. Et deuxièmement, ce qu'il essayait de faire, c'est de se préparer à des élections législatives qu'il aurait gagnées haut la main. Il s'attendait à véritablement faire un tsunami qui lui aurait permis de contrecarrer la décision syrienne de maintenir le président contre ce que dit la lettre de la Constitution au pouvoir, parce qu'il était pro-syrien, de le maintenir, le président Lahoud. Donc, Hariri se préparait à des élections au printemps 2005, qu'il aurait certainement gagné haut la main. Et je crois que son assassinat est à la fois lié à sa volonté de rétablir son autorité entière de Premier ministre aux dépens des Syriens, mais aussi à sa volonté de dominer la politique du pays à travers un parlement qui lui aurait été favorable aux élections qui allaient avoir lieu deux mois plus tard, après son assassinat.
On revient dans les années 1990. C'est des années que vous avez bien connues au pouvoir, vous-même, aux affaires en tout cas au Liban, et aussi dans les années 2000, où vous avez été d'ailleurs ministre, l'un des ministres de Rafik Hariri, de la culture, entre 2002-2003, puis à nouveau en 2005. Qu'est-ce que ces années racontent? Est-ce que c'est un nouvel âge d'or pour le Liban à ce moment-là, avec, vous l'avez dit dans l'épisode précédent, la fin de la guerre froide, donc aussi peut-être moins d'instrumentalisation de ce pays, et puis le processus de paix entre Israël et l'OLP. Est-ce que ça veut dire que ce sont des années tout de même d'une forme d'âge d'or que ces années 90?
Oui, dans le sens que Hariri a rencontré auprès des Libanais la même volonté de reconstruire leur pays. Ce que voulait dire reconstruire l'infrastructure de leur pays, ce que voulait dire reconstruire les institutions politiques de leur pays, tout cela était dans l'air et tout cela, comment dirais-je, sentait le pessimisme. Mais il y avait un pari que pendant que cela avait lieu, le processus de paix israélo-palestinien produirait enfin la paix régionale dont le Liban a besoin pour exister véritablement. Et c'est ainsi.
Ça, je vous coupe parce que c'est passionnant, c'est hyper important.
Ouais.
La paix au Liban est déterminée par le conflit israélo-palestinien.
Et le pari de Hariri, et il n'était pas le seul à avoir ce pari, c'est qu'en 1990, Saddam Hussein ayant envahi le Koweït, et la coalition internationale envoyée à Koweït pour l'en déloger, ayant posé comme condition qu'il y aurait un processus de paix sur la question palestinienne immédiatement après avoir délogé Saddam Hussein du Koweït. Et cette conférence de paix va avoir lieu avec une activité infatigable du secrétaire d'État américain de l'époque, Jim Baker. Elle va avoir lieu à Madrid.
En 1991.
J'y étais aussi. 1991. En 1991. Et Hariri pensait que ce processus de paix qui allait en parallèle à la reconstruction du pays va créer le climat idoine pour que cette reconstruction ait lieu et pour que le Liban connaisse la paix civile. Et c'est le pari que Hariri et beaucoup d'autres que lui vont perdre. Parce que le processus de paix ne va pas aboutir. Parce qu'en 1991, la conférence de Madrid sera stérile. Parce que l'accord d'Oslo obtenu en 1993 sera un mauvais accord. Et d'ailleurs, qui sera pratiquement mort-né dès l'assassinat de Rabin en 1995, du premier ministre israélien Rabin
en novembre.
En 1995. Et donc, vous avez une situation où un pari fondamental pour réussir la reconstruction du Liban est perdu. Le contexte régional idoine pour que le Liban se reconstruise n'est pas au rendez-vous.
Et je mets également dans ce panier du Liban des années 90 la normalisation du Hezbollah, qui devient un parti politique avec des élus. Est-ce que c'est un facteur de stabilisation, ça, du pays dans les années 90?
Écoutez, dès le moment qu'on a accepté que le Hezbollah ne serait pas désarmé comme les autres milices, il était normal de l'intégrer dans la politique. Il était même plus sage de l'intégrer dans la vie politique que de le garder entièrement en dehors de la tente. Il fallait le mettre sous la tente comme les autres pour tenter de traiter avec lui, de limiter son influence sur les institutions politiques. Et c'est ce que l'élite politique du pays a fini par accepter et a fini par avaliser, effectivement, à partir de 1992.
Je reviens à la mort d'Hariri. Cette mort va déclencher à nouveau des tensions très violentes dans le pays et dans la société libanaise. Pourquoi ? Et est-ce que ça veut dire que les tensions n'ont jamais vraiment disparu, qu'il suffisait d'une mèche à nouveau et que la mort d'Hariri en a été une qui a bien fonctionné ?
La mort de Hariri a divisé effectivement le pays entre ceux qui étaient les souverainistes qui tenaient à la souveraineté du pays à n'importe quel prix et qui pleuraient Hariri. Et il y avait ceux qui disaient que la lutte pour la libération de la Palestine était tellement centrale que les petites considérations de politique intérieure libanaise ne pesaient pas si lourd que ça.
Et ça va produire une révolution dans le pays, la révolution dite du cèdre. D'ailleurs, tiens, petite question de curiosité, pourquoi le cèdre est le symbole du Liban ?
C'est dans la Bible. C'est dans la Bible et c'est dans l'histoire de la région. Le pays est connu pour être une puissance maritime du temps des Phéniciens, parce que les Phéniciens utilisaient un bois qu'on trouvait difficilement dans les autres pays de la région, qui est le bois du cèdre libanais.
Alors, on ferme la parenthèse géographique et historique pour retourner sur cette révolution du cèdre.
Oui.
Des centaines de milliers de Libanais qui manifestent contre la tutelle syrienne au Liban, des jeunes, des plus âgés. Est-ce que ça préfigure un peu des révolutions arabes qui arriveront quelques années plus tard ?
On peut.
Est-ce qu'elle est très, très libanaise ? Et elle va s'achever dans le drame à nouveau. Hein. Je pense à l'assassinat du journaliste Samir Kassir, par exemple, journaliste du quotidien An-Nahar. Ça raconte quoi, cette révolution syrienne étouffée ?
Écoutez, il y avait un souffle souverainiste, il y avait un souffle démocratique, et il y avait un souffle populaire dans cette insurrection. Je n'appelle pas ça révolution,
mais
insurrection, dans laquelle d'ailleurs Samir a joué un rôle important, contre un peu à la fois l'emprise syrienne, contre à la fois l'emprise intérieure du Parti de Dieu, mais c'était aussi une révolution qui était un peu ambiguë, en ce sens que des éléments de l'opposition qui n'étaient pas, comment dirais-je, au niveau de l'intégrité, s'y étaient associés sans véritablement être des modèles eux-mêmes, l'homme d'État intègre. Donc c'était à la fois une révolution populaire belle à voir, mais c'était aussi une révolution qui était un peu marquée par son respect des autorités telles qu'elles existaient depuis une éternité et qui manipulaient le Liban. Ce qui est sûr, c'est qu'après, deux lignes vont se dessiner clairement, au Parlement comme au gouvernement, qui vont se retrouver en face à face en 2006, au moment de l'invasion israélienne de 2006, qui vont se retrouver en face à face de nouveau en 2007, en 2008, etc. Une partie qu'on appelle la partie favorable, si vous voulez, à la Syrie et au Hezbollah, et une autre qui était favorable, plus à une ligne souverainiste. Et le Liban reste divisé entre ces deux lignes jusqu'au moment où nous parlons maintenant.
Je reviens un instant sur la révolution du cèdre. On a au même moment, et vous l'avez beaucoup enseigné à vos étudiants, les révolutions dites colorées en Europe orientale, en Géorgie, en Ukraine, en Biélorussie, où on sait que la main des Américains n'était pas absolument absente. Est-ce que cette révolution du cèdre, elle a été aussi, non pas noyautée, c'est pas le mot que j'emploierai ici, mais en tout cas, a été regardée avec une forme de bienveillance en Occident par des parties prenantes?
Il est sûr que c'était une véritable insurrection authentique nationale, mais il est sûr aussi que des puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, n'étaient pas insensibles ni à son lancement, ni à son évolution, ni à la pression qu'elles pouvaient exercer sur des forces que les Américains considéraient comme hostiles à leurs intérêts.
Quels intérêts hostiles, ici ?
Dans le cas du Hezbollah et de la Syrie, cela est évident, c'est-à-dire des forces qui étaient plutôt hostiles à Israël.
On avance en juillet 2006, c'est à nouveau la guerre entre Israël. Alors, dois-je dire entre Israël et le Liban ou entre Israël et le Hezbollah ?
Entre Israël et le Hezbollah à l'époque. C'est une guerre un peu baroque. C'est une guerre qui est conduite du côté israélien par un premier ministre qui n'a pas vraiment d'expérience militaire, qui était poursuivi par la justice, par un ministre de la Défense qui est un syndicaliste qui n'a aucune expérience militaire et par un chef...
On sent le fiasco. Hein,
et un chef d'état-major, le seul de l'histoire d'Israël qui vient des forces aériennes. Donc, c'est une opération baroque. Il décide de s'engouffrer au Liban et très vite, les lourds Merkava israéliens sont descendus comme facilement par des unités très petites du parti de Dieu. Cela va durer des semaines et des semaines, presque 35 jours, oui. Avec Condi Rice qui disait aux Israéliens d'avancer, de pouvoir changer le rapport de force. Et finalement, ils n'y arrivent pas. C'est une guerre qui se termine d'une manière que certainement le premier ministre Olmert de l'époque n'avait pas pensé, mais qui a eu pour effet positif de transformer M. Olmert lui-même en une espèce d'avocat de la paix, oui. Après sa sortie du gouvernement quelques mois plus tard. Il va prêcher pour un accord sur l'affaire palestinienne qui n'était pas son opinion au moment où il était Premier ministre et qu'il envoie le Liban.
C'est Oud Olmert, hein, dont vous parliez tout à l'heure, qui était ce Premier ministre sans beaucoup d'expérience. Si je reprends l'issue de cette guerre, j'ai commencé en disant, est-ce que c'est une guerre contre le Liban ou contre le Hezbollah? En l'occurrence, c'est une guerre contre le Hezbollah, vous l'avez dit. Et le Hezbollah va gagner une image extraordinaire de résistance.
Il va réussir.
C'est important dans la mythologie de Nasrallah et du Hezbollah au Liban et au-delà dans la région.
C'est vrai que 2006 est un moment extrêmement puissant dans la construction du récit du Hezbollah et du récit de Nasrallah lui-même comme une espèce d'icône. Il est certainement, à cette époque-là, l'homme le plus populaire dans tout le monde arabe, du Maghreb et du Mashrek, réunis. Il est certainement l'homme le plus populaire en Palestine, l'homme le plus populaire que je connaisse sur l'ensemble des pays du Maghreb. J'allais au Maroc, en Algérie, etc., on ne me parlait que de lui. Nasrallah prend une stature à partir de 2006, comme celui qui, en 2000, avait réussi, pour la première fois, a obligé les Israéliens de se retirer d'un territoire occupé par la force. C'était la première fois que ça réussissait. Ils vont se retirer en 2005 de Gaza de leur propre chef. Ils vont se retirer d'autres endroits de leur propre chef pour des raisons qui les concernent.
Du Sinaï par le passé, oui.
Du Sinaï par un accord international. Ouais. Mais du Liban Sud, ils se retirent sous la pression du Hezbollah. Donc ils réussissent ça en 2000. Et le Hezbollah récidive en 2006.
Voilà.
En les obligeant à se retirer du Liban Sud sans obtenir les résultats qu'ils cherchent. Dans cela, à la fois le Hezbollah, mais aussi la personne de Nasrallah joue un rôle tout à fait capital.
Un mot tout de même sur cette image qui va s'écorner peut-être en 2011, au moment du mouvement de révolte contre le régime syrien d'Assad. Là, le Hezbollah
va s'écorner un peu, elle va s'écorner sérieusement.
parce que
au moment où le printemps arabe commence, le Hezbollah est content de voir M. Moubarak chuter en Égypte ou M. Ben Ali chuter en Tunisie. Mais lorsque le tour d'Assad vient, la position de l'Iran et celle de Hezbollah change de tout en tout. Et ils disent, là, ce sont nos alliés qui sont visés et pas nos adversaires. Et donc, le Hezbollah va non seulement s'impliquer dans la guerre syrienne, mais je crois dans une grande mesure que si Bachar el-Assad est encore là, il le doit dans une grande mesure à l'activité et aux centaines et centaines de militants du Hezbollah tués en Syrie pour le garder en place.
Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tous les révolutionnaires du Cèdre, qui peut-être ont éprouvé une forme de gratitude envers Nasrallah d'avoir repoussé les Israéliens, s'éloignent à nouveau de ce mouvement parce que leurs ennemis, c'est les Syriens?
Il ne s'agit pas des révolutionnaires du Cèdre, c'est toute l'opinion arabe, en fait, y compris libanaise, qui met un bémol à son admiration pour Nasrallah. Il y a le Nasrallah d'avant l'intervention en Syrie, qui est une espèce de héros national qui va de l'Irak jusqu'au Maroc, y compris au Liban. Et vous avez le Nasrallah d'après 2011 et de l'intervention en Syrie, où beaucoup de gens commencent à se dire il intervient dans la politique intérieure et au lieu de soutenir les révolutionnaires syriens, il se met du côté d'un régime aussi autoritaire, sinon plus autoritaire que tous les autres.
Les fractures libanaises, la tragédie libanaise. On poursuit son récit avec vous, Rassane Salamé, pour le dernier épisode qui sera consacré à l'époque la plus contemporaine. Liban, anatomie d'un pays déchiré, un podcast original de France Inter.